Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Jacques Meunier et bonjour à tous.
Au sommaire des enjeux internationaux aujourd'hui, le Venezuela, l'aide humanitaire est-elle un cheval de Troie?
Eh oui, on va voir
encore
ça.
Encore un fantôme.
Encore un fantôme, en tout cas des soupçons et puis un suspens réel quand même avec ce Venezuela sous haute tension avant la date butoir, hein, demain pour l'arrivée de l'aide humanitaire internationale. Show politique, disait Nicolas Maduro, qui craint effectivement un prétexte pour une intervention militaire. Un mois après que Juan Guaido s'est autoproclamé président du Venezuela. C'est une nouvelle étape dans la guerre des légitimités et on voit ça avec vous, Jean-Jacques Orlianski, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être venu. Vous êtes le directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine. Alors, deux présidents, deux fournitures d'aide humanitaire, deux concerts de soutien tout à l'heure à 300 mètres l'un de l'autre, pendant que Juan Guaido tente d'approcher toujours de la frontière avec la Colombie. Nicolas Maduro a déjà fermé celle avec le Brésil, qui va plier l'armée Guaido-Maduro. En tout cas, cette fois, ce qu'on peut dire, Jean-Jacques Orlianski, c'est que tout le monde est un peu au pied du mur dans les prochaines 24 heures.
Oui, peut-être qu'il faut essayer de regarder un peu plus loin sur le caractère assez insolite de ce qui est en train de se passer, où on parle beaucoup d'humanitaire, mais finalement, l'impression que l'on a, c'est que l'humanitaire est un prétexte.
Un prétexte, il y a quand même une réalité de la crise, hein, si on peut en dire un mot.
Effectivement, il y a une situation de crise économique et sociale au Venezuela. Il y a, selon les Nations Unies, plus de 2 millions de personnes qui sont parties pour des raisons économiques, hein, pour chercher à vivre mieux ailleurs. Cela dit, la situation est assez paradoxale. Parce qu'effectivement, il y a un certain nombre de pays, à commencer par les États-Unis, 12 pays latino-américains et une demi-douzaine de pays européens, qui font de l'ingérence humanitaire au Venezuela, d'une main, tout en pratiquant de l'autre une politique de sanctions extrêmement dure, qui aggrave la situation humanitaire de la population vénézuélienne. Selon des sources du Conseil de sécurité des États-Unis, le Venezuela sera privé de 11 milliards de dollars cette année, 11 milliards de dollars qui auraient pu être consacrés à l'importation de denrées alimentaires et de produits pharmaceutiques qui auraient permis de résoudre la situation humanitaire.
Alors ça c'est donc pour le grand tableau. Juste un mot sur l'urgence de la situation. Quand Juan Guaido dit par exemple que des centaines de personnes risquent de mourir si l'aide n'entre pas immédiatement, est-ce qu'il a tort, sachant que je crois qu'il y a 20 à 30 personnes qui meurent déjà du sida chaque jour, faute de médicaments justement?
Donc la situation, je vous dis, est difficile, mais elle est aggravée par les sanctions. Donc on est là dans une situation paradoxale. Il faudrait savoir si, pour les pays qui sont engagés dans une opération humanitaire au Venezuela, quel est leur degré de sincérité. Si effectivement, pour ces pays, l'humanitaire est l'essentiel, il y aurait une solution très simple pour éviter tout équivoque. Ça serait de confier tout ce qui est arrivé par des ponts aériens ou par camion à la frontière de la Colombie ou à la frontière du Brésil, à une agence des Nations Unies ou à la Croix-Rouge internationale.
Alors justement, aujourd'hui, le président de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge doit se rendre à Caracas. C'est peut-être une ouverture, selon vous?
Il y a déjà eu des appels du pied de la Croix-Rouge en signalant que nous, en tant que Croix-Rouge, on ne fait pas de politique, on fait de l'humanitaire. Donc, il a fait part de sa disponibilité. Pour l'instant, le contexte n'est pas celui-là. Il est celui, plutôt, d'une instrumentalisation de l'aide humanitaire pour d'autres objectifs. Et la question, là, doit être posée. Quels sont les objectifs réels?
Justement.
Alors, est-ce qu'il s'agit, si on met de côté l'humanitaire, on fait le constat, qui est un simple constat, que l'humanitaire est un prétexte, est-ce qu'il s'agit de défense des libertés et des droits de l'homme? Donc, effectivement, le Venezuela n'est pas un pays exemplaire en matière de liberté et des droits de l'homme. Je ferai malgré tout le constat que le président autoproclamé est un président d'Assemblée nationale. Là, c'est incontestable, c'est incontesté. d'opposition. Donc on est dans une situation assez ambiguë, on n'est pas dans la situation de la Chine, on n'est pas dans la situation de l'Arabie Saoudite, on n'est pas dans la situation de l'Égypte. Alors est-ce que ça veut dire que les États-Unis et les pays qui suivent les États-Unis sur ce dossier vont également se livrer à des politiques d'ingérence active vis-à-vis de l'Égypte, de l'Arabie Saoudite, donc qui a découpé l'un de vos collègues en petits morceaux,
Jamal Khashoggi,
un journaliste dans le consulat d'Arabie en Turquie, ou vis-à-vis de la Chine qui pratique la peine de mort par centaines.
Alors qu'on en revienne au Venezuela.
Non, ça sera pas le cas non plus.
Non, mais il y a donc cette effectivement contestation des légitimités. Ce président de l'Assemblée nationale, autoproclamée assemblée dont les pouvoirs elles-mêmes ont été réduits, d'où et effectivement tout un débat sur la légitimité. Qu'est-ce qui est en jeu aujourd'hui avec cette aide humanitaire? Je le disais encore une fois, dans les prochaines 24 heures, est-ce que c'est de faire plier l'armée, de la mettre au pied du mur de cette sorte qu'elle puisse se prononcer en faveur ou non du régime de Maduro? Ou est-ce que c'est une guerre d'image, disons, qui a le plus de légitimité pour apporter cette aide?
L'enjeu, c'est le départ de Nicolas Maduro, qui dispose d'une énorme clé que personne dans l'opposition n'a pu rompre. Parce que c'est l'armature du régime vénézuélien, le soutien de l'armée. Il faut pas oublier que en 2002, l'opposition avait essayé de renverser Hugo Chavez par des moyens militaires. Il y avait eu un coup d'État. Et qu'à l'issue de ce coup d'État, Hugo Chavez avait épuré l'armée. Et que depuis cette date, l'armée a été étroitement associée à la gestion du pays, qu'elle est choyée par le régime, de tout point de vue, et que donc elle n'a aucune raison, pour l'instant, c'est le constat que l'on peut faire, de rompre avec le régime.
Même si on entend ça et là quelques défections
donc,
tous les
discours qui ont été faits par le président autoproclamé sont des discours en direction des forces armées. Il a fait en particulier le 25 janvier adopté par l'Assemblée nationale dont il est le président une loi d'amnistie en vue de essayer de séduire les militaires en leur disant bon c'est vrai. Ce que vous avez fait c'est pas bien jusqu'ici mais il n'y aura pas de poursuite, vous serez amnistié. C'est une proposition qui est restée sans suite. Il y a quelques jours, le président Donald Trump, en Floride, a lancé des menaces à l'égard de l'armée vénézuélienne parce qu'effectivement, on assiste à une espèce comme dans le catch ou dans la lutte mexicaine, on assiste à une espèce d'insulte réciproque des deux côtés.
Des menaces et puis des imprécations à Miami. Ils ont dit il faut faire ce qu'il faut.
Des menaces relatives, ouais. Puisque les uns et les autres savent qu'il n'y a pas de vacances du pouvoir au Venezuela, comme le dit en s'appuyant sur un article de la Constitution, le président autoproclamé, qui de toute façon n'avait pas sauté proclamé dans la rue, dans une manifestation, qui est une procédure constitutionnelle extrêmement critiquable et douteuse. Hein. On ne peut pas lutter pour le respect des droits et de la Constitution en se proclamant président dans ces conditions-là. C'est une parenthèse.
Et qu'est-ce qui peut se passer encore une fois dans les prochaines heures? Est-ce que l'aide peut entrer, sachant que le président Maduro a fait bloquer ce fameux pont de Tianitas avec des remorques, que l'armée s'est dite prête à défendre l'intégrité territoriale? Cette aide va entrer ou non, selon vous?
Donc c'est une posture du coup de poker, comme il y en a depuis le début de cette affaire, depuis son autoproclamation du président Guaido, du président des États-Unis, qui savent très bien que cette aide ne pourrait entrer au Venezuela qu'avec l'accord des autorités. Autorités qu'ils ne reconnaissent pas, qu'ils menacent et qui, donc, logiquement, a pris la décision de fermer la frontière. Le constat que l'on peut faire, c'est que malgré tout, les choses ont l'air de se terminer à la vénézuélienne avec une solution de sagesse qui est d'avoir une guerre musicale avec des concerts des deux côtés de la frontière. Donc, on se situe plutôt dans la politique d'influence, de revendication face aux médias Bolivia, plus que dans une aventure militaire, que de toute façon la Colombie, puisque c'est le point chaud de la frontière, que la Colombie, en dépit du fait que son président soit très anti-Maduro, la Colombie a refusé toute aventure militaire.
Oui, c'est ça, puisqu'il y aura ces deux concerts donc dans quelques heures, l'un animé par, enfin payé par Richard Branson, Venezuela Aid, et puis l'autre Hands Off Venezuela, Ne touchez pas au Venezuela, celui qui est promu par le régime de Maduro. Eh bien, on suit ça et on verra les développements également diplomatiques dans les prochains jours. Merci beaucoup pour vos explications aujourd'hui, Jean-Jacques Kourlianski. Je le rappelle, directeur de l'Observatoire de l'Amérique latine. Bonne journée.